DW. Le journal. Carole Assignon.
Il est 17h en temps universel, 18h en Allemagne. Nous sommes le mercredi 12 mars 2025. Au sommaire de cette édition, la République démocratique du Congo. Au lendemain de l'annonce d'éventuelles discussions directes prochainement entre le M23 et Kinshasa, cette annonce a été faite alors que s'ouvre demain un nouveau sommet de la SADC. La RDC encore au Human Rights Watch attire l'attention sur la pression qu'exercent les rebelles de l'AFC M23 sur les journalistes et activistes dans les régions qu'ils contrôlent. Dans ce journal, nous ferons aussi un point sur le processus électoral au Gabon. 4 candidatures ont été retenues pour la présidentielle le 12 avril prochain et 2 concentrent l'attention pour le scrutin. Et puis une analyse sur la décision de l'Ukraine d'accepter sous la pression un cessez-le-feu. Voilà pour le programme. Et avant de développer tous ces thèmes, on fait d'abord un tour d'horizon des nouvelles dans le monde. Et c'est avec Georges Ibrahim Tounkara. Bonsoir.
Bonsoir à tous. La guerre en Ukraine, alors que Moscou dit attendre d'être officiellement informé par Washington de sa proposition de cesser le feu, mise sur la table après plus de 3 ans de guerre, le chancelier allemand Olaf Scholz a souligné ce mercredi qu'une trêve en Ukraine devait aboutir à un accord durable qui préserve la souveraineté du pays et lui garantisse le maintien d'une armée forte. Olaf Scholz a particulièrement mis en garde contre toute démilitarisation de l'Ukraine, un objectif poursuivi par la Russie, selon lui.
Le compte macabre se poursuit en Syrie.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme a fourni ce mercredi un nouveau bilan de 1383 civils tués depuis le 6 mars par les forces de sécurité syriennes et des groupes alliés dans l'ouest et le centre du pays. L'Union européenne a salué la mise en place par le nouveau pouvoir syrien d'une commission d'enquête sur ces violences et crimes survenus dans l'ouest du pays. Tout doit être fait pour éviter que de tels crimes se reproduisent, dit l'Union européenne dans un communiqué publié ce mercredi.
L'ONU doit devenir plus efficace.
C'est ce que dit le patron de l'organisation, Antonio Guterres, qui a lancé aujourd'hui un processus d'examen interne visant à rendre plus efficace le système onusien qui fait face à des contraintes budgétaires chroniques renforcées par les politiques du président américain Donald Trump. Les ressources diminuent à tous les niveaux et depuis longtemps, a déclaré Antonio Guterres en présentant l'initiative ONU 80, référence au 80e anniversaire de l'organisation cette année.
Donald Trump poursuit sa guerre commerciale.
Nouvelle étape de la guerre commerciale entre les États-Unis et ses partenaires commerciaux. Les droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium voulus par Donald Trump sont devenus effectifs ce mercredi, entraînant une riposte de l'Union européenne et de la Chine qui ont promis de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts. La Commission européenne a annoncé qu'elle allait taxer une série de produits américains allant des bateaux au bourbon en passant par les motos à partir du 1er avril. Le Canada, pour sa part, annonce qu'il va imposer dès jeudi de nouveaux droits de douane sur certains produits américains pour répondre aux tarifs douaniers injustifiés et déraisonnables imposés par Donald Trump sur l'acier et l'aluminium. Par ailleurs, les Canadiens qui restent plus d'un mois aux États-Unis vont bientôt devoir s'enregistrer auprès des autorités américaines selon une nouvelle règle publiée ce mercredi et cela en pleine offensive de Donald Trump contre son voisin.
Dans l'actualité également, la crise humanitaire à Gaza qui fait réagir MSF.
Médecins sans frontières dénonce l'utilisation de l'aide humanitaire comme monnaie d'échange par Israël dans la bande de Gaza, privée d'accès à des fournitures vitales comme l'électricité ou la nourriture. Le 2 mars, Israël a annoncé sa décision de bloquer l'entrée de l'aide humanitaire dans Gaza sur fond de désaccord avec le mouvement islamiste Hamas concernant la suite de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu. Pour Médecins sans frontières, cette décision de couper l'électricité aura progressivement de graves répercussions sur l'approvisionnement public en eau et sur la santé de la population qui compte plus de 2,2 millions de personnes qui vivent déjà une grave crise humanitaire. Et puis on termine par les Philippines. Les avocats de l'ancien président philippin Rodrigo Duterte disent avoir déposé une requête devant la Cour suprême de son pays pour demander son rapatriement à Manille où il avait été arrêté hier au retour d'un voyage à Hong Kong. Rodrigo Duterte est visé par un mandat de la CPI qui le soupçonne de crimes contre l'humanité. Ses avocats estiment que cette juridiction ne peut exercer sa compétence que si le système juridique national d'un pays ne fonctionne pas. Or, disent-ils, le système judiciaire philippin fonctionne correctement. Des dizaines de milliers d'hommes ont été tués par des policiers et des groupes d'autodéfense lors de la guerre contre la drogue menée par le président Duterte, souvent sans qu'il soit prouvé qu'ils étaient liés au trafic de drogue et l'avion qui transportait le président Duterte vient d'atterrir à La Haye au siège de la Cour pénale internationale.
C'était le Flash Info avec Georges Ibrahim Tonkara. Merci Georges Ibrahim. Il est 17h05 en temps universel, la suite du journal.
DW.
Et cette question, va-t-on vers un dialogue direct entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23? Dans un communiqué publié hier mardi, la présidence angolaise indique qu'elle prendra des contacts avec le M23 en vue de négociations directes à Luanda entre Kinshasa et le mouvement rebelle. Objectif pour l'Angola, parvenir à une paix définitive dans l'est de la République démocratique du Congo. Étienne Gattanasi.
Après ce communiqué de la présidence angolaise, la porte-parole du président Félix Tshisekedi, Tina Salama, a sobrement indiqué sur les réseaux sociaux avoir pris acte de cette déclaration. Le texte a été publié par Luanda à la suite d'une rencontre entre les présidents angolais et congolais. Nous attendons de voir la mise en œuvre de cette démarche de la médiation angolaise, a encore écrit Tina Salama, laissant entrevoir ainsi un changement de ton du côté de Kinshasa. Jusqu'ici, en effet, la RDC a toujours refusé de dialoguer avec les rebelles du M23. Il y a quasiment 2 semaines, la présidence congolaise indiquait que le M23 n'a aucune légitimité, qu'il est une coquille vide qui veut négocier pour défendre les intérêts du Rwanda. Dans une vidéo publiée le 23 février, Félix Tshisekedi avait même qualifié le M23 de « pantin ». Marcel Héritier, capitaine, spécialiste de l'Est de la RDC, souligne que le changement d'attitude de Kinshasa, s'il est confirmé, est avant tout le résultat de son recul militaire dans l'Est du pays.
Militairement, Kinshasa n'est plus vraiment en position de pouvoir se déployer au Nord Kivu et au Sud Kivu pour essayer de reprendre du terrain, notamment avec la vague de trahison des groupes d'autodéfense sur lesquels Kinshasa essayait de s'appuyer, notamment le Wazalendo.
Depuis fin janvier, le M23, soutenu par le Rwanda, s'est emparé notamment des chefs-lieux des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, à savoir Goma et Bukavu, installant sa propre administration. Il contrôle aussi depuis avril dernier la mine de Rubaya dans le Nord Kivu, la plus grande mine de coltan du pays. Nene Bintou Iragi, présidente de la société civile du Sud Kivu, appelle à un dialogue urgent en regard, dit-elle, de la souffrance de la population.
Les civils ne sont pas du tout protégés et donc on veut vraiment que les processus soient amorcés pour que la population puisse avoir la paix, pour que l'intégrité territoriale de la RDC ne soit plus entamée.
Les négociations directes les prochains jours entre Kinshasa et le M23 ont été annoncées alors qu'un sommet extraordinaire des dirigeants de la SADC, la Communauté de développement d'Afrique australe, se tient ce jeudi pour examiner la situation sécuritaire en RDC. L'analyste Marcel Héritier, capitaine, note que le gouvernement congolais fait face à une importante pression.
Kinshasa ne peut pas s'exprimer directement ou ouvertement favorable aux discussions, tout comme il ne peut pas non plus rejeter la main tendue de peur de subir un rejet diplomatique au niveau régional et sous-régional.
En février, le M23 avait répété son engagement à résoudre le conflit dans l'est de la RDC par le biais d'un dialogue direct abordant les causes profondes du conflit afin d'instaurer une paix durable. Il reste maintenant à savoir si le mouvement rebelle sera prêt pour le dialogue et si négociation directe il y a, sur quel sujet les différentes parties vont négocier.
Et on reste en RDC, menaces, pressions, harcèlement et dans certains cas, arrestations ou même exécutions dans les zones sous le contrôle des rebelles du M23 et de son aile politique, l'Alliance Fleuve Congo AFC. Des organisations de défense des droits de l'homme comme Human Rights Watch dénoncent un climat de peur. Ce sont les journalistes ou des activistes de la société civile qui sont pris pour cible par les rebelles, selon l'organisation qui, dans un communiqué publié aujourd'hui, donne des exemples précis et relève des témoignages de victimes de cette répression. Clémentine de Montjoie est chercheuse senior sur la région des Grands Lacs à Human Rights Watch et elle revient ici sur ce climat de peur et de répression. L'écoute.
Nous avons vu un rétrécissement de l'espace civique et une augmentation des menaces, notamment des menaces de mort envers les activistes de la société civile, les voix critiques et les journalistes. Nous avons documenté plusieurs cas où des nouveaux administrateurs, des nouveaux responsables mis en place par l'Alliance Fleuve Congo ont menacé directement des activistes ou des journalistes. On a aussi documenté des cas où des activistes ont été emmenés en détention, apparemment à cause du travail qu'ils ont fait pour documenter les abus commis par le M23 ou leur travail sur le conflit. En même temps, nous avons aussi documenté deux cas d'exécution d'un chanteur connu sous le nom de Delka Tibengo à Goma et d'un activiste de la Lucha, Pierre Biamungu, à Kalehe.
Alors, Human Rights Watch a recueilli des témoignages, vous l'avez dit. Est-ce que ce sont des témoignages qui ont été difficiles à obtenir ?
Oui, il faut comprendre que toute cette communauté des médias et de société civile vit dans la peur.
Et vous vous êtes également rapproché des rebelles du M23-FC. Et comment, eux, ils justifient ce climat de peur qu'ils instaurent et qu'on leur reproche ?
Ils ont reconnu assez ouvertement certaines des accusations et des allégations. Ils ont confirmé, par exemple, l'arrestation d'un activiste parce qu'il était, je cite, opposé à notre régime ou parce qu'il avait émis des critiques. On voit aussi une certaine hostilité envers le travail de la société civile qui est accusée d'être proche du gouvernement congolais. Et tout particulièrement contre les mouvements citoyens tels que la Lucha. La situation n'était pas parfaite avant l'arrivée du M23. Déjà, les médias faisaient face à des pressions de la part des autorités congolaises qui, elles aussi, ont cherché à contrôler le travail des médias et leur couverture du conflit. C'est important d'attirer l'attention sur la situation. Les acteurs qui ont pris des engagements envers les défenseurs des droits de l'homme devraient agir. Cela peut passer par des pressions sur le Rwanda, du coup sur le M23, mais aussi adopter de nouvelles sanctions ciblées contre le M23 et les hauts fonctionnaires rwandais et congolais responsables de graves abus.
C'était les précisions de Clémentine Monjoie, chercheuse senior sur la région des Grands Lacs à Human Rights Watch. Et au sujet encore de l'Est de la RDC, le M23, je rappelle que dans les zones passées sous son contrôle, le groupe armé a installé sa propre administration et collecte des taxes. Et selon diverses sources, eh bien, il exploite par ailleurs également les mines pour financer son effort de guerre. Et vous êtes nombreux à réagir à la situation dans l'Est de la RDC. Eh bien, continuez de nous faire parvenir vos messages, par exemple sur Facebook.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Au Gabon, 4 candidatures ont été retenues pour la présidentielle. 23 dossiers avaient été déposés. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le chef de la junte au pouvoir, qui a renversé l'ancien président Ali Bongo, Claude Billy Binze, qui est le dernier premier ministre d'Ali Bongo, mais aussi un juriste, inspecteur des impôts, Joseph Lapensée Ezigone, ainsi qu'un médecin, Stéphane Germain Iloko, vont s'affronter dans les urnes le 12 avril prochain. Et toutefois, ce sont les deux premiers qui concentrent l'attention pour le scrutin, Brice Oligui Nguema et Alain-Claude Billy Binze. La campagne doit commencer le 29 mars, mais Sandrine Blanchard, il y a peu de chances qu'elle aboutisse sur une véritable alternance.
Brice Oligui Nguema avait promis de rendre le pouvoir aux civils au terme de la transition. D'ailleurs, le général ne parle pas de putsch pour le renversement de la dynastie Bongo au bout de 55 ans passés au pouvoir, mais de coup de la libération. Sauf que le général Oligui Nguema a fait adopter une nouvelle constitution. Une clause y spécifie que les militaires sont autorisés à briguer un mandat de président. Et Brice Oligui Nguema a donc décidé de se présenter pour répondre, selon lui, aux nombreux appels du peuple et à celui de l'Esprit Saint. Sans être affilié à un parti, il a créé le mouvement des bâtisseurs et met en avant son bilan. Fin février, par exemple, les autorités de transition ont annoncé qu'elles allaient initier des missions de contrôle pour évaluer l'état d'avancement précis des chantiers qui ont été lancés depuis le coup d'état du 30 août 2023. Détail cocasse, la candidature du général Oligui Nguema est soutenue par le PDG, c'est-à-dire le parti d'Ali Bongo, que son coup d'État a pourtant renversé. À ce propos, dans une interview à TV5 Monde, Julien Nkogé Bekalé, ancien premier ministre d'Ali Bongo, explique que, je cite, « par décence et par humilité, il faut passer le relais à une autre génération, à d'autres compatriotes. Le PDG ne présente pas officiellement de candidat. Il s'attend peut-être à un retour d'ascenseur lors de la constitution du gouvernement, dès les législatives et des élections locales à venir. L'adversaire le plus sérieux du général est Alain-Claude Billy Binzé. Premier ministre pendant les 8 derniers mois de la présidence d'Ali Bongo, il entend battre campagne sous le slogan « Osons l'espérance pour un autre Gabon » sans pour autant encore avoir défini quel autre Gabon exactement il entendait par là.
L'affaire à suivre, donc, c'était les précisions de Sandrine Blanchard. Et j'ajoute que depuis août 2023, Ali Bongo vit dans sa résidence privée de Libreville. En revanche, son épouse Sylvia et son fils Noureddine ont été placés en détention avec des accusations de malversation financière. Au Tchad, les femmes souhaitent que le domicile conjugal leur soit attribué en cas de divorce. C'est l'une des 18 recommandations faites au terme de la Semaine nationale de la femme tchadienne. La ministre en charge de la femme, Amina Prissy Longo, estime que cette recommandation vient à point nommé. Et selon elle, il faut mettre les femmes à l'abri de séparations qui se font souvent à leurs dépens. Et le sujet a fait l'objet de commentaires sur la toile, Bob Barry.
Les violences basées sur le genre sont à éradiquer. Mais pour Abdou Adam de N'Djamena, il serait injuste de chasser un homme de sa maison qu'il a construite, explique-t-il. Si ce sont des logements appartenant à l'État, la situation pourrait se comprendre, précise-t-il enfin. C'est une démarche à encourager car beaucoup de femmes souffrent, constate en revanche Anderson. Mais tout dépendra de qui demande le divorce, nuance Anderson, qui pense qu'il faudra être prudent pour éviter la dislocation des couples. David Takissa de Douala demande ce qui pourrait se passer en cas de polygamie où la situation des femmes est encore plus précaire. Par quelle procédure les coépouses pourront-elles gérer le domicile conjugal, s'interroge-t-il. Dans ce cas, les coépouses ne pourront pas réclamer d'obtenir le domicile conjugal puisque leur mari n'est pas financièrement capable de les satisfaire, suppose Bagoro Kouabié de Koudougou au Burkina Faso. Motobé de Yaoundé, pour conclure, estime que le mieux est de vivre en location afin qu'il n'y ait pas de dispute pour réclamer le domicile conjugal.
Voilà, c'était les réactions sur les réseaux sociaux avec Bob Barry. À noter concernant toujours le Tchad que la condition féminine dans le pays s'est globalement améliorée ces dernières années selon un récent rapport des Nations Unies consacré à ce pays du Sahel. Cependant, un quart des Tchadiennes de 20 à 24 ans ont été mariées avant l'âge de 15 ans selon les données du groupe URD Urgence Réhabilitation Développement reprise par Amnesty International. Une mise en garde à présent, celle de l'Union africaine. Selon l'organisation, la formation d'un gouvernement parallèle au Soudan annoncé par les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR et leurs alliés conduirait à un énorme risque de partition de ce pays ravagé par la guerre civile. Le Soudan, le rappelle, est le théâtre depuis avril 2023 d'une guerre pour le pouvoir entre les FSR dirigés par le général Mohamed Hamdan Daglo et l'armée menée par le général Abdel Fattah al-Burhan. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 12 millions de personnes. Et le Conseil Paix et Sécurité de l'Organisation panafricaine a exprimé ce mercredi donc dans un communiqué sa grave préoccupation et sa ferme condamnation des récents développements au Soudan, notamment l'annonce de la formation de ce gouvernement parallèle, prévenant ainsi qu'une telle action comporte un énorme risque de partition du pays. En bref encore, l'administration intérimaire du Tigré, région du nord de l'Éthiopie, a demandé ce mercredi l'assistance des autorités fédérales d'Addis Abeba. Cette demande a été formulée alors que les tensions sont croissantes avec une faction du parti local, une situation qui fait craindre une spirale de violence. Entre fin 2020 et fin 2022, une guerre meurtrière a opposé en effet l'armée fédérale éthiopienne aux dirigeants de cette région gouvernée de longue date par le Front de libération du peuple du Tigré. Après un accord de paix signé à Pretoria, au cadre du Front de libération du peuple du Tigré, a été placé à la tête d'une administration intérimaire par Addis Abeba. Au Sénégal à présent, l'opération d'immatriculation gratuite des véhicules à deux roues lancée le 5 janvier dernier par l'État va prendre fin le 13 mars prochain. Mais peu de temps avant l'échéance, beaucoup de personnes n'ont toujours pas encore immatriculé leur moto, faute d'argent ou parce qu'ils ne possèdent pas le certificat de mise en circulation, un document indispensable pourtant pour les formalités d'enregistrement. Les précisions avec ce reportage de notre correspondant à Dakar, Robert Adé.
Nous sommes à Dakar, au service des mines de Koulouban. C'est l'un des sites retenus par l'État sénégalais pour l'immatriculation gratuite des véhicules à deux roues. L'opération a démarré le 5 janvier dernier et Sougoul, visiblement satisfait, vient de faire enregistrer sa moto.
Je suis venu à 6 heures et puis j'ai déjà fini. Jusque là, je n'ai rien encore de passé.
Cependant, nuance le coordonnateur régional de Dakar pour l'Association nationale des livreurs du Sénégal, Babacar Ndao, le processus peut se révéler difficile pour ceux qui n'ont pas les documents de leur moto à jour, notamment le certificat de mise en circulation, le CMC.
Il y a des gens qui ont le problème pour avoir le photocopie qui est sur le CMC même. Et aussi, l'acte de vente, ça se fait que police centrale qui est à Dakar. Donc, c'est compliqué pour ceux qui sont dans les banlieues.
Malgré la réduction et la suppression de certaines tasses, beaucoup de motocyclistes n'ont pas encore immatriculé leur moto. Kara est conducteur de Tchak Tchak, un véhicule à deux roues dans le quartier de Kermassa.
Je n'ai pas encore immatriculé ma moto. Ça, là, d'ici le mois prochain, là, que j'avais immatriculé ma moto.
L'opération fait suite à une décision du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens visant à lutter contre les accidents de la circulation dans lesquels les motos non immatriculées et sans assurance sont souvent impliquées. Une initiative qu'apprécie le président de l'Association nationale des livreurs Tchak Tchak du Sénégal, Seydina Alioune-Fall.
Muter nos motos permettrait d'identifier qui est livreur et qui est agresseur. Et dans ce cas, on pourra avoir ce qu'on appelle un secteur sécurisé, assaini et bien régularisé.
Mohamed Sidibé est conducteur de Tchak Tchak et il pense que son secteur doit être soutenu par les pouvoirs publics.
C'est un secteur à protéger quoi, parce que nous sommes un peu vulnérables par rapport aux conducteurs de tata, de taxi. Donc ils ne nous tolèrent pas en tant que transporteurs quoi.
Plus de 50 000 véhicules à deux roues sont en circulation au Sénégal selon une estimation de l'Association des livreurs Tchak Tchak du Sénégal. Les conducteurs ont jusqu'au 13 mars pour immatriculer leur moto et se mettre en règle conformément au code routier sénégalais. Après cette date, toutes les motos non immatriculées seront saisies par la police et mises en fourrière. Robert Ali à Dakar pour la Deutsche Welle.
Et puisqu'on parle du Sénégal, les députés sénégalais ont approuvé mardi un projet de loi sur l'assistance aux personnes détenues, notamment des migrants, et autorisant le transfert mutuel de condamnés entre le Maroc et le Sénégal. Le texte vise notamment à faire transférer au pays de nombreux jeunes sénégalais convoyeurs ou candidats à l'émigration irrégulière et emprisonnés au Maroc qu'ils traversent régulièrement en tentant de rejoindre l'Europe par la mer. Encore au sujet du Sénégal, le gouvernement sénégalais s'est dit indigné des traitements subis par ces ressortissants migrants en Mauritanie voisine. Une campagne visant les candidats à l'émigration fait des remous. Au Mali, Daouda Magassa, un proche de l'influent imam Mahmoud Diko, critique de la junte au pouvoir, a été libéré hier mardi. Il avait été enlevé le 5 février par des hommes armés non identifiés, selon ses proches. Dans un contexte marqué par l'annonce du retour le 14 février au Mali de l'imam Diko installé en Algérie depuis décembre 2023, et ce retour avait finalement été reporté. Toujours au Mali, on reste au Mali où les repas scolaires ont été suspendus dans 400 établissements dans les régions du nord et du centre, faute de financement. Une suspension qui pourrait freiner les avancées déjà enregistrées dans le domaine de l'éducation ou encore de la sécurité alimentaire. Et le sujet fait réagir sur les réseaux sociaux. On retrouve Bob Barry.
L'autosuffisance alimentaire est un principe primordial, mais curieusement, nombre de pays dont le Mali peine à nourrir leur population, critique Mani sur Facebook. Henri Charré de Douala constate en revanche que le Mali a fait preuve de bonne volonté pour avoir plaidé en faveur des cantines scolaires pour le bien-être des élèves. Alors qu'il y ait suspension faute de financement, cela ne relève pas de la responsabilité de l'État malien, pense-t-il. À chaque repas, je me sens en force à partager un écolier malien sur le compte X des Nations Unies. La coalition des cantines scolaires School Meals partage également cet avis, toujours sur X. Chaque enfant doit avoir accès à une nutrition utile pour l'aider à son éducation et épanouissement, précise School Meals Coalition dans son tweet du 8 mars à l'occasion de la Journée mondiale des femmes. Le Programme alimentaire mondial a également révélé les avantages que procuraient les cantines scolaires au Mali. Dans les zones en proie à l'insécurité, les cantines scolaires ne se sont pas limitées à la nourriture. Elles ont également renforcé le vivre ensemble dans différentes communautés, souligne pour terminer le PAM dans un tweet.
Réaction sur les réseaux sociaux avec Bob Barry. Au Nigeria, les autorités de l'état de Kaduna dans le nord ont récemment conclu un accord avec des gangs criminels pour mettre fin aux attaques meurtrières et aux enlèvements. Mais la crainte d'une reprise des violences persiste. Les gangs criminels, localement appelés bandits, procèdent en effet à des enlèvements massifs contre rançon, notamment dans des écoles et à des pillages et tueries dans les villages. Et selon l'armée nigériane, rien qu'en 2024 au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, eh bien l'équivalent de 1,45 milliard de dollars ont été payés en rançon. Près de 11 000 criminels ont été tués et 12 000 ont été arrêtés.
DW. Le monde à votre portée.
Vous en parlez dans le sommaire. L'Ukraine a accepté hier la proposition américaine concernant un cessez-le-feu de 30 jours. Mais à quel prix? En effet, après la suspension durant une semaine de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, une aide qui vient d'être rétablie, eh bien les États-Unis profitent de leur position de force. Samantha de Bundern est chercheuse dans le département Russie-Eurasie à la Royal Institute of International Affairs à Londres. Et elle voit voilà une manœuvre de chantage politique de la part des Américains. Elle s'en explique au micro d'Héloïse Gosselin.
Aujourd'hui, les Ukrainiens se voient obligés de proposer un cessez-le-feu en échange d'un retour de ce qu'ils avaient déjà, sachant que ce qu'ils avaient déjà n'était déjà pas suffisant pour pouvoir mener cette guerre de façon satisfaisante pour l'Ukraine. C'est un chantage qui a réussi parce que l'Ukraine n'a pas le choix. Mais qu'est-ce que l'Ukraine a obtenu de nouveau? Rien. Elle est juste revenue au statu quo, qui déjà lui-même n'était pas satisfaisant, il y a une dizaine de jours.
Bien que la Russie n'ait pas encore répondu à la proposition, à quel retour peut-on s'attendre de la part de Moscou?
Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, en escale en Irlande cet après-midi, a dit qu'il pense que la Russie va demander que les sanctions soient levées pour qu'elle accepte le cessez-le-feu. Mais la Russie n'a eu à faire absolument aucune concession.
Aujourd'hui, l'accord inclut un compromis entre Kiev et Washington sur l'exploitation de minerais. Cet intérêt économique des Américains sur le sol ukrainien remet-il en question la souveraineté de l'Ukraine?
D'abord, ces minerais ne sont pas exploités aujourd'hui pour la plupart. Vont coûter très très cher à l'exploitation et avec des résultats qu'on verra dans plusieurs années. Donc aujourd'hui, l'Ukraine, elle a besoin d'armes, elle a besoin de garanties de sécurité. La seule chose qui va nuire à la souveraineté de l'Ukraine aujourd'hui, c'est le fait que son pays soit amputé de 20% et potentiellement plus, que la Russie la bombarde et que la Russie veut s'ingérer dans la façon dont l'Ukraine sera gouvernée, c'est-à-dire démilitarisation et puis mise en place d'un gouvernement pro-russe. Ça, c'est une ingérence à la souveraineté ukrainienne. Ce n'est pas l'accord sur les minerais.
Voilà, c'était l'analyse de Samantha de Bundern, chercheuse dans le département Russie-Eurasie à la Royal Institute of International Affairs à Londres. Elle était au micro d'Héloïse Gosselin et a noté par ailleurs que le président américain Donald Trump a annoncé que des négociateurs américains se rendraient, je cite, « dès maintenant en Russie ». Le chancelier allemand Olaf Scholz a souligné, lui, ce mercredi qu'une trêve en Ukraine devait aboutir à un accord durable qui préserve la souveraineté du pays et lui garantisse le maintien d'une armée forte. Et pour sa part, le président turc Recep Tayyip Erdogan a dit espérer que la Russie répondra de manière constructive à la proposition américaine pour un cessez-le-feu immédiat de 30 jours entre Kiev et Moscou. Il est 17h28 en temps universel et c'est l'heure pour vous de tester vos connaissances sur les programmes de DW Afrique. La question actuelle: combien de temps dure l'édition matinale de DW Afrique diffusée en direct du lundi au vendredi? Et vous avez trois propositions au choix. Est-ce que c'est 1h, 45 minutes ou 30 minutes? Notez que la date limite pour participer est fixée au 18 mars et le gagnant ou la gagnante sera tirée au sort. Et toutes les informations concernant ce jeu sont à retrouver sur notre site internet dw.com/français. On passe à présent au sport.
DW. Le sport. Sophie Serbini.
Suite et fin ce soir des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions avec notamment dans un gros quart d'heure le Borussia Dortmund qui joue sa saison sur la pelouse de Lille. Sophie Serbini.
Seulement dixième de Bundesliga et déjà éliminé de la Coupe d'Allemagne, le Borussia Dortmund n'a plus que la Ligue des Champions pour sauver sa saison. Mais lors du match aller, le BVB qui menait 1-0 s'est lentement éteint au point de voir les Lillois revenir au score. Le week-end dernier, les Borussen n'ont pas rassuré, loin de là, en s'inclinant 1-0 à domicile face à Augsbourg. Une défaite qui a particulièrement déplu à Niko Kovac. Selon la presse allemande, l'entraîneur aurait convoqué ses joueurs pour une réunion où l'ambiance était loin d'être au beau fixe, une information qu'il n'a pas démentie en conférence de presse.
Je ne veux pas parler de ce qui a été dit exactement, mais nous avons eu un débriefing et certaines des questions qui ont été soulevées. J'ai été très clair et direct. Je pense qu'il était absolument nécessaire de faire cela après la défaite contre Augsbourg. Nous devons nous remettre sur les rails et nous concentrer, et c'est ce que nous avons l'intention de faire cette fois-ci.
Devant l'étendue des problèmes du club de la Roure actuellement, les Lillois pourraient être confiants, mais l'entraîneur Bruno Genesio se méfie de la bête blessée.
Je n'étais pas forcément rassuré de lire ou d'écouter ce que j'ai lu et écouté ce matin sur leurs problèmes à l'entraînement, parce que souvent ça peut créer aussi un sentiment de révolte et resserrer les rangs, et on sait... toute la force aussi des équipes allemandes dans ces moments-là, savoir se reconcentrer, se remobiliser sur un événement.
Lille reçoit le Borussia Dortmund de Serhou Guirassy dans 15 minutes à partir de 17h45 TU. Dans les autres rencontres de la soirée, toutes à 20h en temps universel, Aston Villa reçoit Bruges, Arsenal accueille le PSV et enfin le Real Madrid se déplace sur la pelouse de son rival de l'Atlético. Lors du match aller, les tenants du titre s'étaient imposés sur le petit écart de 2-1. L'ambiance promet donc d'être électrique dans l'antre des Colchoneros.